them goddamn diamonds.
Chase you out of earth.
Sur Radio G, tout de suite, vous êtes en compagnie de l'équipe de Génération Sport pour l'émission sportive de la grille. C'est tout de suite et maintenant. Bonsoir à tous, c'est ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Génération Sport. On est ensemble jusqu'à 21h pour parler de toute l'actualité sportive locale et internationale, avec évidemment beaucoup d'international en ce moment. Et oui, c'est la fin de la saison pour nos clubs angevins, même si on aura quelques infos à vous donner. On est en compagnie évidemment encore une fois d'une équipe bien garnie. Je vais faire la présentation de tout le monde. Je vais commencer à ma droite avec Cédric qui est là. Salut Cédric, comment ça va? Attends, excuse-moi, le micro, pardon, vas-y.
Là, ouais, avec le micro ouvert, c'est mieux.
C'est mieux.
C'est mieux, ce qui paraît. Bah écoute, ça va super bien.
Ça va?
Ouais,
bon week-end.
Ouais, bon week-end tranquille. On a vu cette petite Coupe d'Europe qui, pour une fois, une finale qui était à peu près intéressante.
Oui, on reviendra là-dessus, évidemment. Pour une fois, il n'y a pas eu que 1-0 dans cette finale. À ta droite, Cédric, il y a Clément qui est là. Salut Clément, comment ça va?
Salut Alex, salut à tous. Moi, ça va super. Plus de match pour moi, mais j'ai un match amical de préparation la semaine prochaine, donc hâte de refouler les terres.
On prépare déjà la saison prochaine?
C'est ça, avec un nouveau coach. Donc,
c'est Lou Cédric qui est le coach ou c'est...
Non, pas totalement.
Bon, pas de souci. Il y a également Florian qui est là. Salut Florian, comment ça va?
Bonsoir à toutes et à tous.
Ça va très bien. Écoute, on rentre dans le vif du sujet avec Roland Garros. Donc, on est dans la deuxième semaine, donc ça va être sympathique.
On est sur un gros marathon sportif, en effet, ouais. Sur les jours qui vont suivre. Également présent avec nous, Mathéo. Salut Mathéo, comment ça va?
Salut Alex, bonsoir à tous. Et ça va très bien. Amoché par les allergies, mais c'est les risques du retour du soleil, on va dire.
Exactement. Le pollen ne m'en parle pas. C'est une galère. Faustin, enfin. Ah oui, d'habitude t'es perturbé. Je vois que t'es perturbé parce que je commence par toi d'habitude. Salut Faustin, comment ça va?
Ah, salut Alex, salut tout le monde. Moi aussi, je prends un peu ma part avec le pollen, mais on est là quand même.
On est là, évidemment, même si les fleurs ne veulent pas qu'on soit là. On va présenter un petit peu le sommaire de l'émission. On va commencer par les infos locales. Alors pas grand-chose. Mais surtout au niveau du mercato, il y a pas mal de choses. Et puis je vous donnerai une information concernant une athlète qui ne devrait pas, une athlète angevine qui ne devrait pas disputer les Olympiques. Et on vous expliquera pourquoi. En international, on reviendra longuement évidemment sur le football. L'actualité est dense avec cette finale de Ligue des Champions gagnée 2-0 par le Real Madrid. Et on verra qui a eu bon sur les pronostics. On reparlera du Real Madrid avec l'officialisation de Kylian Mbappé qui va donc rejoindre le club madrilène. Et puis on parlera également JO avec cette liste de Thierry Henry, sûrement un débat justement autour de ces clubs qui vont barrer notamment au moins 5 joueurs qui vont être concernés par l'empêchement de leur club. Et puis évidemment une grosse page Roland-Garros avec plus de Français. Je crois, c'est vrai que dans l'histoire de Génération Sport, on n'a jamais eu de Français sur le deuxième mardi de Roland-Garros. Enfin, sur l'émission. Je sais pas ce que t'en penses.
Généralement, ils faisaient que 2 tours.
Ben c'est ça, 2 ou 3 tours.
Là, il y a eu de l'évolution. On a quand même eu un Français et une Française au troisième tour.
C'est quand même pas mal. Même au quatrième, du coup. En huitième, du coup.
Non, au troisième.
Non, au huitième.
On est sur des huitièmes de finale, ouais. Bon, c'est pas grave. En tous les cas, c'est rare d'en voir sur le deuxième mardi de Roland Garros des Français. La dernière, d'ailleurs, qui a été éliminée hier. On parlera un peu de basket avec toi, Faustin. Alors, les finales NBA, on les connaissait déjà peut-être un peu la semaine dernière. Ouais. Et tu nous referas quand même un point parce que ça a été officiel. Et puis tu nous parleras aussi de Betclic Elite avec, je le vois juste à côté de toi, le match entre Monaco et Paris Basket. On parlera de rugby, un petit mot de cyclisme également. Et je vous ferai une chronique en fin d'émission sur le hand et la retraite du GOAT du sport. Nicolas Karabatic qui a donc quitté le handball de club. On va commencer sans plus tarder avec le SCO, une info alors qui ne concerne pas le mercato mais qui concerne, une fois n'est pas coutume, la justice avec Saïd Chaban qui avait été relaxé de son procès pour blanchiment d'argent notamment la semaine dernière. Finalement le parquet vient de faire appel donc cette journée. Et on aura vraisemblablement donc un procès qui va redémarrer pour Saïd Chaban. Du côté des rumeurs de mercato, Ouest France a dévoilé hier une piste pour le poste de milieu de terrain avec Jérémy Gélin, milieu défensif en fin de contrat avec Amiens. C'est un joueur qui est notamment passé par le Stade Rennais. Mercato, on en parle également, Faustin, dans le basket local avec l'UFAB qui a officialisé un départ important.
Ouais, c'était dimanche, on a pris le départ, le jour des 20 ans de Leïla Lacan, du coup son départ du club de l'UFAB. Après 2 saisons passées à Angers, son départ laisse un manque dans l'effectif avec la place qu'elle a su prendre, notamment cette saison, elle était l'option offensive numéro 1. Alors en plus de sa draft en WNBA, il y a de cela 4 semaines, dans l'équipe des Connecticut Suns, Leïla Lacan jouera donc en ligue féminine du côté de Basketland.
C'est ça, donc elle part pour un gros club. Tout comme apparemment, selon pareil les informations de Ouest-France, Kelly Elenga qui irait à l'ASVEL ou encore Jasmine Bailey à Latte Montpellier. Donc des gros noms de l'effectif qui s'en vont vers des gros noms du championnat. C'est vrai, qu'est-ce qu'on en pense de ce départ de Leïla Lacan? Qu'on avait reçu, je rappelle, dans l'émission.
C'était évident. À partir du moment où déjà t'es dans la draft, il y avait peu d'espoir pour qu'elle reste à Angers. Hein. De toute façon, on sait que des joueuses comme ça, elle a été sollicitée. Ça se trouve, c'est sollicité depuis le mois de janvier, hein.
Bien avant, ce que la coach Aurélie Bonan nous avait dit, c'est que même l'année dernière, pour sa première saison, dès le mois de janvier, ça commençait du coup à parler pour faire venir Leïla Lacan, enfin voilà, la faire quitter le club. Et finalement, elle a pu rester au moins deux ans, ce qui était parfait. C'était déjà un gros coup de la faire venir, hein, ouais, quand elle sortait du Pôle France. Et on a quand même la continuité avec Marine Dursus, qui est un petit peu sa successeuse, on peut le dire ça comme ça.
Successrice. Oh là non.
Voilà,
le
français, voilà, qui va prendre son poste, en tout cas de jeune espoir, évidemment. Mais voilà, un coup dur un peu, évidemment, pour le femme, mais attendu.
Beaucoup de départs, du coup, en ce mercato, quoi.
On verra.
Et là, va falloir peut-être.
Rien n'est encore officiel, mais voilà, ce sont les infos qui.
Généralement, bon. Puis même dans le basket, quand il y a des annonces de départ, c'est très rare que ce soit des rumeurs infondées, contrairement au foot. Mais non, ce qui prouve que le club va falloir qu'il reconstruise quand même pas mal de choses, parce que mine de rien, c'est des joueuses emblématiques. Il y a eu quand même aussi un départ en retraite aussi d'une joueuse.
Dissa Rondo,
voilà. Mine de rien, c'est 4 joueuses importantes dans ton système, ouais, au final, qui vont partir. Je fais confiance à la coach, elle a quand même fait tourner pas mal cette année, elle a testé des joueuses.
Bien sûr.
Il y a eu un recrutement qui avait été fait aussi dans ce sens-là, en amenant du sang jeune déjà dans cette équipe, pour qu'elles puissent prendre leur marque.
Quel centre de formation aussi.
Voilà, oui. Puis bon.
Oui, le centre de formation marche très très bien.
Je pense que voilà, c'est. Ils ont déjà tiré des bilans de cette intégration cette année. Et je pense que déjà, ça a déjà été réfléchi. Je ne serais pas surpris dans peu de temps qu'on annonce les premiers arrivés à Angers.
Oui, ça devrait arriver dans ces eaux-là. Pas d'autres infos, Faustin? Oui.
Moi, c'est pour du foot, mais c'est juste pour faire un petit clin d'œil à l'équipe U18 de Bocuse, qui est montée en national cette année, qui a gagné la Coupe de l'Anjou et qui est allée en demi-finale de Coupe des Pays de la Loire au 6e tour de Coupe Gambardella. Donc, c'était pour leur faire un clin d'œil parce qu'ils ont fait une saison de malade et du coup, l'année prochaine, ils joueront en U19 national.
Ok, c'est vrai que c'est un très bon résultat pour un club comme ça. Une dernière info locale et puis après on partira sur l'international avec on n'en parle pas souvent dans l'émission, mais la gymnastique, et oui, puisque vous savez peut-être, mais on a une Angevine qui est très très connue en France pour ses exploits donc en gymnastique. C'est Caroline Edui, hein, qui est donc originaire d'Angers, et elle a annoncé il y a pas très longtemps mettre un terme à sa carrière gymnaste professionnel à seulement 20 ans. Et alors la raison, c'est un différend notamment avec sa fédération, un différend qui dure depuis maintenant 2 ans. L'instance donc a voulu centraliser à Paris et à Saint-Etienne les entraînements pour les Jeux Olympiques. Ils ont même obligé ceux qui voulaient participer à ces Jeux Olympiques à rejoindre ces deux centres, donc du côté de Paris à l'INSEP et à Saint-Etienne également. Et Caroline Edui a contesté ça et elle a voulu rester dans son club d'Avoine Beaumont, qui n'est pas situé à Angers, mais voilà, qui lui est cher. Et elle a noté que donc c'est quand même quelqu'un d'assez important pour l'équipe de France féminine de gymnastique, puisqu'elle a participé aux championnats du monde. Elle a également participé aux Jeux Olympiques aussi de Tokyo en 2021. Et c'est vrai que c'était un gros espoir de la gymnastique française. On a vu beaucoup d'affaires comme ça, hein, autour des Jeux Olympiques, avec des fédérations qui gèrent assez mal leur athlète, la gestion des performances, etc. Qu'est-ce que vous en pensez un peu autour de la table de cette gestion-là, de voir une jeune athlète à 20 ans déjà mettre à terme sa carrière à cause de la fédération?
Après, il faudrait vraiment savoir les raisons de pourquoi elle ne voulait pas aller dans ces centres-là. Après, c'est un peu dur, tu vois, de juger comme ça, mais bon, c'est souvent les fédés françaises, hein. Moi, je pense souvent à l'athlétisme, où il y a eu des gros couacs avec la fédération, pas forcément pour des lieux de regroupement, mais bon, plus sur la gestion, sur ce qu'ils veulent faire, qu'ils mettent en place. Écoute, c'est dommage quand t'es considéré dans les espoirs de pas faire les JO pour une raison comme ça. Après, il y a peut-être autre chose que voilà. Connaissant pas le dossier à fond, je vais pas me prononcer non plus sur les vraies motivations qu'elle a derrière.
Personne autour de la table. Si, Florian, Mathéo, Florian.
Bah, le truc, c'est que on n'a pas forcément tous les tenants et les aboutissants, mais le truc, c'est que si clairement c'est un de tes espoirs et que tu dois t'appuyer sur elle pour ta sélection et pour donc pour les jeux, donne-lui les moyens nécessaires, que ce soit à Paris, à Saint-Etienne ou à Avoine ou à Strasbourg ou n'importe où en fait. Pour moi, je trouve qu'on met pas assez en avant si le côté psychologique de l'athlète et que si demain elle se sent en capacité de faire des bons résultats, mais que ces résultats viennent du lieu où elle s'entraîne, et si c'est Avoine, bah c'est très bien en fait, ça sera Avoine. Le problème, c'est que t'as beaucoup de fédérations, vous le disiez, qui ne comprennent pas forcément ces choses-là. Et ça me fait penser aux déclarations que et Manodou et je sais plus qui l'avait fait auparavant aussi, un autre athlète, et Riner avait fait, c'est qu'ils estimaient que la France n'était pas forcément un pays de sport, et clairement pas en fait. Je pense que pour le haut niveau, on n'a pas cette faculté et cette comment dire cette tendance à vraiment favoriser les performances de nos athlètes. Voilà.
C'est vrai que c'est quelque chose qui est souvent dénoncé, hein, la gestion des sportifs sur justement autour des jeux. Et c'est vrai que c'est assez assez dommage. Avant de passer à la pause musicale, on va enchaîner avec le football, puisque voilà, la page locale a été assez courte.
Rugby, quand même.
Ah oui, tu voulais faire un point rugby, Cédric, nous parler notamment des jeunes, hein, je crois, qui ont bien performé ce week-end.
Ouais, il y a eu 14 du SCO Rugby, donc apparemment un grand tournoi ce week-end. C'est 2 victoires sur 3 matchs, mais c'est surtout derrière, c'est une qualification pour la finale du Challenge Grand Ouest, donc qui aura lieu le 15 et le 16 juin.
Alors, très bien.
C'est donc, bien, je trouve. Enfin voilà, on parle pas souvent forcément du rugby chez les jeunes, mais en tout cas voilà, ça pousse. Et bon, de toute façon, en plus, on va bientôt arriver dans les finales de top 14, donc on va en parler et encore, puis, encore plus, mais voilà, c'est le moment aussi de mettre le score rugbyman de nos régions en avant.
Le score rugby qui a été justement récompensé par le Midi Libre,
oui,
Oscar du rugby amateur qui leur a été décerné, notamment par Christian Califano, oui, qui s'est rendu sur place. Donc voilà, un bel hommage pour ce club qui monte à Angers. On va passer au foot. Sans plus tarder, avec cette finale des champions remportée 2-0 par le Real Madrid, les buts de Carvajal et de Vinicius dans le plus ou moins dans le dernier quart d'heure, dans les 20 dernières minutes de jeu, un Real Madrid auquel une physionomie de match auquel on s'attendait, avec un Real Madrid qui a été dominé notamment en première période et même un petit peu en seconde, et puis voilà, la fin du match a basculé en faveur des Madrilènes pour remporter leur 15e Ligue des Champions. C'est assez énorme, évidemment. Autour de la table, qui a vu le match et qui veut en parler, vas-y Mathéo, je te laisse la main.
Eh ben écoute, je sais pas si c'était vraiment pour moi une surprise de voir ce Real là dominer, parce qu'on en avait parlé. Bah nous on a eu du tout faux avec Alex sur ce prono là. J'aurais bien aimé voir Dortmund, je pense, comme pas mal de gens.
Non, moi j'avais dit Real, si je peux me permettre.
Ah oui, t'avais dit Real à la fin.
Ouais, ouais,
oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai.
Et c'était Florian, ouais. Oui. Et moi. Et c'est vrai.
Ouais, et c'est vrai. Ouais, ok, ben on était 3, on était la moitié, on a eu tout faux, les gars.
Ah ouais, c'est vrai. N'empêche que on pouvait y croire, parce que quand on voit la première mi-temps,
bah c'est ça. Si Adeyemi n'avait pas chaussé ses Timberland légères, par contre, parce qu'il courait vite, donc.
Le Real sur la première mi-temps, il est inexistant, il se fait peur.
Hein. Ah bah c'est compliqué, hein. Mais c'est un scénario typique Real.
Ah ouais, ouais, ouais.
C'est surprenant face à une équipe comme Dortmund, honnêtement. Après cette saison, tout était possible pour Dortmund en Ligue des Champions. On les sentait vraiment sur un petit nuage, un peu à l'image de Monaco à l'époque. C'était 2016-2017, je crois.
Ouais.
Il me semble, si je dis pas de bêtises. Non, après, dans la physionomie du match, je pense que c'était une des finales les plus intéressantes qu'on ait eues sur les dernières années. Ça, c'est sûr, depuis au moins, je dirais 5 ans. Hein. Franchement, honnêtement, Paris-Bayern, c'était pas un plaisir. Et puis les finales d'après, c'était pas des plaisirs non plus. Donc,
Liverpool-Real, ça avait été bien quand même.
Oui, ça avait été pas mal, mais.
Ça a manqué de buts.
Honnêtement, oui, par rapport à ce match-là, ouais, où vraiment ça allait
oui,
de partout,
enfin,
ça a quand même joué.
Ça allait s'attendre à un match ouvert aussi.
Exactement. Mais ça a été un vrai plaisir à regarder. Et puis au final, c'est le
encore
qui gagne,
le
à la fin.
Bah, c'est leur tour. Enfin,
moi, pour le coup, j'avais pronostiqué justement cette physionomie match où le Real est dominé, puis à la dernière seconde, c'est. J'avais dit Nacho, parce que je trouve ça beau que Nacho marque, mais finalement c'est Carvajal. Clément, qu'est-ce que t'en penses?
Bah c'est un peu Reus qui a lancé la machine madrilène. Non. Bah c'était juste triste, c'est triste pour lui du coup, mais ouais, bah le Real, je l'avais dit la semaine dernière, c'est leur compétition, t'as l'impression qu'ils sont intouchables. Enfin voilà, Poto, ils ratent des face à face Dortmund. Enfin bon. Je sais pas comment dire ça, en plus c'est Carvajal qui marque, c'est un peu pour l'image, lui qui est là depuis des années et qui marque un but alors que je pense qu'il avait pas marqué de la saison.
De la tête en plus.
Ouais.
Ça.
C'est, et il a failli en remettre un deuxième en plus après, mais le gardien avait fait a fait une belle parade. Mais bon, voilà, on peut. J'ai l'impression que vraiment ils sont intouchables. Et puis, on peut juste les féliciter et bravo à Toni Kroos pour la carrière qu'il a fait.
Et Vinicius qui a donc marqué désormais dans deux finales différentes. Et c'est peut-être quelqu'un qui va se positionner pour le Ballon d'Or. Florian, qu'est-ce que t'as pensé de ce match, toi?
Bah, j'ai une stat déjà en tête, c'est 6 sur 11 déjà. C'est, tu te dis qu'il a quand même gagné 6 Ligues des Champions sur les 11 dernières, le Real Madrid, c'est incroyable.
Bah ouais.
Le gap, en fait, tu te dis qu'il y avait un, comment dire, un écart très, très infime entre le Real Madrid et son poursuivant. Je crois que c'était le Milan AC, je crois, derrière eux en termes de Ligue des Champions.
Ouais.
Et là, sur les 10 dernières années, ils ont surclassé tout le monde. Non, après, sur la finale, bah ouais, je me suis trompé, j'ai pensé à nous pour les pronostics, là. Et c'est vrai que tu te dis que si Adeyemi, déjà, il arrive à la caler au fond, ça change tout le match. C'est assez impressionnant, j'ai hâte de voir après la suite. Je pense qu'on aura un autre débat par rapport au Real dans pas longtemps, je pense, donc ouais. Peut-être qu'on va en parler, mais je sais pas si cette équipe-là va jouer de la même manière l'année prochaine avec un autre attaquant, mais... Ouais. Mais c'est assez impressionnant. Et c'est vrai que de voir Carvajal qui marque de la tête, tu te dis, bon, en fait, il peut rien leur arriver, quoi. C'est fou de se dire que si même lui marque, c'est, après, ils peuvent dire merci à un joueur, je pense aussi. Et j'étais un peu déçu par contre, pour son remplaçant, parce qu'il a quand même fait une saison incroyable, c'est Lounin. Mais Courtois, le match qu'il fait, qu'il fait samedi soir, c'est...
Match retour, en plus. Hein.
Ah, mais c'est...
Depuis sa blessure.
C'est quasiment, c'est peut-être le seul match qu'il fait de la saison, je pense, il me semble.
Non, il en a fait 5 cette saison. Il a fait 5 clean sheets.
Mais en Ligue des Champions.
Ah, en Ligue des Champions. En Ligue des Champions, je pense que ça doit être son premier.
Ouais. Mais c'est incroyable.
Très fort.
C'est fort.
C'est très fort. Faustin, toi, le Barcelonais. Allez, j'attaque direct.
Non, Dortmund peut s'en vouloir qu'à eux-mêmes, j'ai envie de dire. Ils avaient les clés du match, ils ont juste pas réussi à concrétiser, mais ça me va, ça me fait un bon prono. J'avais dit
2-0. C'est vrai. 2-0.
Ouais, j'avais dit le score parfait. Voilà.
Cette année, Ligue des Champions, elle est pour toi. Copenhague et le score de la finale, je pense qu'on...
J'aurais dit pareil.
À part pour le Barça.
Ah, ça chambre, je crois.
Non, mais c'est vrai que sinon, c'est le Real qui gagne à la fin. C'est nul.
D'accord, ok.
On a pas compris, il faut lâcher ça.
Non, mais au moins cette année, il y aura pas de polémique.
Ah,
sur l'arbitrage ou des choses comme ça, au moins.
A priori, on a pas eu.
Ouais, Bayern Real.
Oui, non.
Je te parle de la finale.
Ouais, sur les matchs d'avant, il y a moyen de discuter.
Oui, oui.
Bref. Après, c'est bien stocké dans notre bonne vieille Ligue 1. Déjà, je pense que toutes les erreurs d'arbitrage qu'on a, sont déjà bien regroupées chez nous. Donc,
ou dans d'autres compétitions, mais peut-être qu'on en parlera plus tard.
Je vois pas de quoi tu parles.
Cédric, dis-moi, qu'est-ce que t'as pensé? T'as vu la finale déjà?
Ouais, j'ai vu la finale.
Et t'en as pensé quoi? T'as pensé que Dortmund pouvait le faire?
Bah, en tout cas, sur les premières occasions qu'ils ont eues, tu les sentais, en tout cas, eux, ils étaient là pour la jouer à fond.
Ouais.
Ça a bien tenu. Heureusement qu'ils ont un Courtois qui renaît. Ça peut être un point fort aussi du coup pour la Belgique, pour la Coupe d'Europe. Il est pas pris du coup.
Il est pas pris, ouais, pour la Belgique.
Il est même pas dans la liste.
Il est diminué, j'imagine.
Parce que là, quand tu le vois jouer comme ça, il y avait moyen qu'il fasse quelque chose.
Peut-être que le sélectionneur va faire en sorte de blesser un des gardiens pour intégrer Courtois.
Non, mais en tout cas, ouais, c'est un peu surprenant du coup. Qu'ils aient déjà entériné les choix, mais bon, en tout cas, avec un match comme ça, ça m'aurait pas surpris de le voir dans la liste et de jouer pas peut-être forcément titulaire tout de suite, le temps qu'ils se remettent, mais en tout cas monter progressivement. Mais
après, il y a des problèmes en Belgique, il y a des problèmes aussi en interne dans la sélection belge entre joueurs. Oui.
Ouais.
C'est pas un certain
des soucis extrasportifs.
Un KDB peut-être.
Bah, avec Kevin De Bruyne notamment et des soucis.
On dira pas.
Voilà, on va pas rentrer dans les détails, mais il y a aussi le fait qu'il a abandonné à un moment donné la sélection alors qu'il était capitaine.
Ouais.
Il savait pas forcément plus au reste de l'équipe et tout, donc non. Il y a beaucoup de soucis autour de Courtois.
Nos Belges galèrent un peu avec l'équipe avec l'équipe du Canada.
Enfin, sur cette finale-là.
Ça nous rappelle les belles époques de l'équipe de France.
Ouais, mais il y a pas de bus. Il y a pas de bus.
Oui, ils ont pas de bus. Alors.
Sur ce match-là, enfin, rien à dire. Hein, il fait un retour. Il est au bon moment. Enfin, il a été solide. Je te dis tout. On va dire les 45 premières minutes, ils sont complètement dominé le Real, quoi. Enfin, sur les occasions, tout, sur l'envie même, j'ai l'impression. Après, ben, c'est le classique Real derrière qui se réveille et puis ben, qui met la pression et
ça marche.
Ça marque plus tôt que d'habitude. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'en fin de match, tu voyais quand même, ça a été chercher le petit but hein, pour revenir à 2-1 et puis aller chercher le 2-2. Enfin, c'est. Non, pour une fois, c'était agréable. Hein. C'était pas une. Une finale où tu t'endors, ça.
C'est ça. C'était intéressant, c'était vivant. On va parler maintenant de la saison prochaine pour le Real Madrid. Et oui, parce qu'elle va concerner. Alors déjà, on aura un Courtois en plus pendant toute la saison, on espère pour lui. Et puis surtout, il y aura un joueur en plus, c'est Kylian Mbappé. On en a déjà un peu parlé dans l'émission, évidemment. Déjà un peu. On en a déjà beaucoup parlé dans l'émission, mais là, c'est officiel. Donc le capitaine de l'équipe de France va rejoindre le Real Madrid et voilà, il va rejoindre l'armada offensive qui a fait briller donc le Real en Coupe d'Europe
pour 5 ans.
Pour 5 ans, c'est ça, contrat jusqu'en 2029. Alors, on n'a pas encore les détails du. En tout cas, c'est pas officiel pour le salaire. Ce sera en tout cas moins qu'au PSG, ça, on peut vous le dire.
Apparemment, ce serait le deuxième plus gros salaire historique en Liga.
Très bien. Eh bien, on va revenir donc là-dessus. J'ai envie de vous dire comment jouer avec Mbappé en plus dans cette équipe. Est-ce que le Real va tout écraser? Est-ce que ça va être compliqué de s'adapter? Est-ce qu'il va faire imploser le vestiaire? Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça à l'avenir? Parce que bon, sur le transfert, on savait déjà. Comment vous voyez cette nouvelle saison du Real avec Mbappé et cette intégration?
Je pense que il va falloir d'abord qu'il s'impose. Parce que cette équipe, elle est quand même, elle a des bases solides avec en gagnant notamment la Ligue des Champions. Et je pense qu'il va falloir qu'il s'impose parce que c'est pas en jouant comme cette année où il en faisait un peu qu'à sa tête qu'il aura sa place. Et deuxièmement, c'est un très grand joueur et je pense que il va faire que il peut que sublimer cette équipe et j'espère qu'il va retrouver son jeu du début du PSG et de Monaco où il prenait les espaces et puis il avait une finition qui était bon, il a encore une meilleure finition qu'avant je trouve et je pense que il va sublimer cette équipe mais tout d'abord il va falloir qu'il s'impose dans l'équipe.
Ouais. Les gars, Mathéo notamment, qu'est-ce que t'en penses?
Ah, moi déjà j'ai un mot à la bouche, c'est liberté. Enfin ce feuilleton est fini parce que franchement c'était long, ça faisait des années que ça durait. Aujourd'hui, je sais pas comment l'intégration elle peut se faire au Real. Pour moi, c'est un mystère. Honnêtement, jusqu'à la fin, j'ai pas vraiment cru qu'il allait le rejoindre parce que ça me paraît gros dans le sens où l'effectif du Real, l'attaque, si tu veux faire rentrer quelqu'un, c'est un buteur. Honnêtement, on n'a pas besoin d'un autre attaquant, sachant qu'Mbappé, il veut pas jouer buteur. En plus, tout à l'heure, en antenne avec Florian et Cédric, on a parlé de la préparation physique. Sans doute que comme à l'instar de Bellingham, il va peut-être perdre un petit peu de masse musculaire, donc il va devenir plus virevoltant, ce qui est pas forcément bon pour un numéro 9. Donc c'est plein de questions qui sont en suspens aujourd'hui. S'il se met pas au service du collectif aussi, ça va être vraiment compliqué pour lui, surtout dans une équipe comme le Real. Donc je mets des gros guillemets sur cette arrivée. Maintenant, ça reste Mbappé. Mbappé, c'est un joueur fantastique qu'on aime tous, surtout en tant que Français. Donc à l'heure d'aujourd'hui, j'ai mes quelques doutes, mais je pense qu'il va tout écraser en Liga, logiquement.
Florian, toi justement sur la tactique, Mathéo disait que ça allait être compliqué pour lui il allait devoir se cantonner à être buteur et avant-centre. Mmh. Toi, qu'est-ce que t'en penses que c'est quelque chose qu'il peut faire de se muer en avant-centre?
Je dirais non parce que du coup, dans ses déclarations tout au long de l'année, il y a deux ans, quand il était pivot gang, il veut pas jouer numéro 9, c'est pas son état d'esprit. Donc après, peut-être que dans le système que va proposer Ancelotti, peut-être qu'il jouera peut-être en faux neuf, ou alors il jouera avec deux faux neuf qui étaient comme Vinicius et Rodrigo lors de la finale. Maintenant, c'est dans l'histoire, c'est dans la génétique, dans l'histoire du Real Madrid d'avoir des stars. Tu regardes il y a 20 ans, tu te demandais comment allait jouer le Real Madrid avec Figo, Beckham, Zidane et Ronaldo.
Et ils ont rien gagné.
Et ils ont rien gagné, c'est vrai. C'est vrai qu'ils ont rien gagné. Ils ont gagné une Ligue des Champions avant l'arrivée de Figo et Beckham. Donc c'est vrai que, mais c'était dans leur ADN d'avoir des stars et des joueurs immenses. Donc maintenant à voir ce que ça va donner avec donc Bellingham, Vinicius, Mbappé et Rodrigo, et, ou alors un autre joueur qui va arriver peut-être dans les, parce qu'il y a aussi un joueur qu'il faut, dont il faut parler aussi, qu'il faudra remplacer pour le Real Madrid, c'est Kroos. Donc comment tu joues sans Kroos au milieu de terrain alors que tu jouais avec ton T3 ouais. Donc comment tu vas faire l'année prochaine, j'ai hâte de voir ça aussi.
Ouais, et puis Florian, tu parlais en attaque de Vinicius, Rodrigo, c'est vrai que c'est des électrons libres. Des lacets, tu les lasses par deux, mais pas par trois. Donc avoir trois électrons libres en attaque, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Maintenant, faut voir. Franchement, moi j'attends que de voir comment le Real va réussir à nous choquer tactiquement.
Faustin, toi, t'en penses quoi?
Bah, c'est vrai que ça paraît compliqué de le placer dans cet effectif autre qu'en buteur, quoi, ou en faux neuf, comme tu l'as dit, Florian, parce que à gauche. Son poste de prédilection, finalement, maintenant, c'est impossible qu'il prenne la place de Vinicius ou qu'il joue à deux à gauche. Ça paraît vraiment, ça va être bouché, quoi. Mais ouais, du coup, j'ai du mal à voir comment Ancelotti va réussir à le placer dans le dispositif. Et j'espère qu'il va pas prendre la place d'un autre joueur déjà important, au Real, quoi.
Moi, je pense qu'il a pas trop le choix. Tu vois, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je pense qu'il va devoir faire évoluer son jeu, en fait, tout simplement, et qu'il va devoir un avant-centre. À la fois, t'es dans un club qui t'impose des choix, qui t'impose une certaine tactique, justement. Et il va falloir, pour lui, pour moi, faire évoluer son jeu. Alors, ce sera plus un attaquant, justement, de pivot. Ce qu'il va devenir peut-être un peu faux neuf, justement, plus technique, revenir dans le jeu. Mais, ou rester dans cet état de transition aussi. Je sais pas, mais il va falloir, pour moi, il est obligé de faire évoluer son jeu.
Ce que tu dis, c'est important. C'est le côté, il a pas le choix. Il arrive dans un club qui va lui imposer ça.
C'est ça. Pour moi, c'est tout l'enjeu.
C'est tout l'enjeu. Et c'est important ce que tu dis. Parce que ça veut dire que s'il le fait là, pour moi, ça veut dire qu'il avait pas de respect pour le Paris Saint-Germain.
Ah, bah oui. Bah, ça après.
Et quand tu vois les déclarations d'aujourd'hui.
C'est ce que.
Il a zéro respect pour le club qui l'a fait manger pendant 7 ans. Alors certes, il a bien servi le club et il a fait gagner des trophées pour le Paris Saint-Germain. Mais clairement, dans les déclarations qu'il a aujourd'hui, mais si l'année prochaine, il a une autre attitude avec ce club-là qu'il respecte, c'est aussi parce que c'est son club qu'il rêve depuis l'enfance.
Ah oui, c'est ça.
Mais ça me fait penser un peu à un respect à la carte.
Ah bah
genre,
oui.
Lui, je peux respecter, lui, je respecte pas. Et je trouve que c'est du coup une mauvaise image et un mauvais signal que t'envoies. Surtout que tu veux être le porte-étendard du foot français et du foot mondial. Je trouve que c'est pas une.
Après, justement, c'est l'éternel débat. Est-ce que c'est plus la responsabilité de Kylian Mbappé d'avoir ce respect à variable ou d'avoir justement un club fort avec une institution comme le Real Madrid ou
d'avoir
un club
faible.
Oui, mais donc en fait, c'est chacun.
Les deux ont leur tort.
C'est ça. Et donc, est-ce que Mbappé est fautif de profiter du PSG ou est-ce que c'est le PSG qui est fautif de faire profiter Mbappé?
Je pense que c'est plus la deuxième.
C'est l'éternel débat, en fait. C'est l'œuf ou la poule, finalement. Oui, t'allais dire Clément.
Ouais, je disais, je pense que c'est plus la deuxième option que le PSG a laissé profiter Mbappé et Mbappé, il s'en est pas privé et là, je pense qu'il va être comme vous disiez, obligé de se plier au Real parce que le Real, mine de rien, en termes d'histoire, de palmarès, c'est pas la même chose que le PSG et on a beau dire, mais même si le PSG a plus d'argent, peut-être, au final, le Real, il va être obligé de s'adapter à comment il joue.
Et effectivement, de toute façon, on verra. Et à mon avis, ça peut que lui être bénéfique de se plier à ce rôle de numéro 9 parce que c'est lui qui va prendre les buts. Vinicius et Rodrigo, ils n'ont pas les lignes de stats dignes de Ronaldo et Messi. Et que c'est justement lui qui va prendre ses lignes de stats. Et que, on va dire que Vinicius et Rodrigo sont plus, on va dire, à l'équivalence de la BBC. Ce seront plus les Benzema et Bale de l'époque. Rapidement, Cédric, pour finir sur ce dossier, qu'est-ce que tu as rajouté sur la saison prochaine du Real et l'intégration de Mbappé?
On verra bien, parce que franchement, j'en ai marre, quoi.
Ça y est, t'en as marre.
Logiquement, c'est pas l'année prochaine, de toute façon, qu'il va performer à fond.
Peut-être une saison de l'adaptation.
Je pense que ça va être une saison d'adaptation.
Très bien.
Nouveau championnat, c'est pas les mêmes défenses, que la Ligue 1. L'arbitrage est pas le même. Enfin, il y a plein de choses qui vont changer. Les ambiances vont changer aussi, donc, pour ça, je pense que la première année, elle va être dure à juger. Ce sera plus sur la seconde où là, oui, il sera plus attendu, je pense. Et après, on verra bien, quoi.
Très bien. Merci, Cédric, pour cette dernière intervention. On va passer à la pause musicale. On reprendra tout de suite après avec la liste de Thierry Henry pour ces JO. Vous restez évidemment sur Radio G. Et puis, voilà, évidemment, les JO est un fil rouge, puisqu'on vous rappelle qu'on sera là cet été pour le Vous les faire vivre, notamment trois samedis avec une émission spéciale de 2 heures. On va s'écouter Alpha One et son titre Philly Flingo, et puis on va se retrouver juste après pour la suite de Génération Sport.
Je fais mes dièses, j'évite d'être trop rebelle, j'évite d'être trop soumis. Je suis un soldat, pas un mercenaire, et je sais comment la guerre se mène. Je pense à mes derniers jours, pas au nombre de ventes de la première semaine. Philly Flingo, collab avec Nigo, chante avec Migos. Sur la une, y'a même Arthur et y'a Nikos. C'est pas le comique ou le Malcolm X. Je rédige ma chronique dans le régime macronique. Enfant matrixé par Chris Cross, maintenant je suis matrixé par les bruits de coffre. Je reviens sur les ondes, faut sortir des vrais sons, le turfu a l'air sans. Prochain confinement, il faut une maison. J'agrandis le réseau, je réduis mes liaisons. Je peux t'entraîner, je suis comme Greg Popovich. Faut suivre la cadence quand ça va trop vite. J'ai des nouveaux rages, des nouveaux prototypes. Des jaloux, saboteurs aux yeux du crocodile. C'est en pleine lucarne que le donne la mise. Je proche de mes sous, ils sont comme la mif. Faut que je blinde les miens, n'y touche pas, le sniper te flingue les mains. Billy Flingo, collab avec Nico. Chante avec Mikos. Sur la une, y'a même Arthur et y'a Nikos. Ambiance électrique, genre 600 volts. J'entre dans la pièce, j'ouvre ma veste. Y'a deux oiseaux blancs qui s'envolent. Ça pue trop la victoire, ouvre la fenêtre. Parfum de victoire, nouvelle fragrance. On me demandait qu'est-ce tu feras grand. Moi je répondais, retraite et vacances. Je m'explose gratuitement pour la cause. Début d'une nouvelle parenthèse. J'entre dans la trentaine, en quarantaine. C'est que c'est faux, c'est l'on dit à l'antenne. Regarde la con que je suis pas dans le thème. Les rivaux sont bu ou se font tirer dessus. Comme des canettes de 33 centilitres. Je te tranquillise, je me la raconte trop comme les gens qui lisent. La concu ne marche plus, on flingue les chambres. Je t'amène vers le luxe comme le rond-point des chiens. J'augmente le level gros. Fuite Prada avec le velcro. En toutes circonstances sur S-Pro. Le temps file, je quitte les aiguilles du cadran. Société décadente, tu le futur. Mère du 14 sera plus dans 4 ans. C'est en pleine lucarne que le donne la mise. Je suis proche de mes sous, ils sont comme la mif. Il faut que je blinde les miens, n'y touche pas au sniper, te flingue les mains. Billy Flingo, collab avec Nico. Chante avec Mikos. Sur la une, y'a même Arthur et y'a Nikos.
Tundaba mixtape.
C'était Alpha One et son titre Philly Flingo sur Radio G. Vous êtes bien sur le 101.5 FM ou bien sur le site internet www.radio-g.fr ou bien encore sur les plateformes d'A+. On est toujours avec toute l'équipe réunie, Cédric, Clément, Florian, Mathéo et Faustin, pour parler de l'actualité sportive internationale. On va terminer un petit peu ce qu'on disait sur le football avec, avant de parler de la liste de Thierry Henry, c'est Clément qui m'a rappelé ça, évidemment, la montée de Saint-Etienne en Ligue 1. Le retour des Verts, en tant que supporter lyonnais, vraiment, ça me fait plaisir. non, au moins, on aura les derbies, ça va être cool. Cédric, toi, rapidement, t'es content, forcément.
Bah, écoute, ouais, enfin, ils reviennent dans l'élite, après avoir mangé leur pain noir pendant un bon petit moment, quand même, en Ligue 2.
Exactement.
Au-delà de cette montée-là, c'est enfin, le club a été vendu.
Oui.
C'est surtout ça, je pense, la meilleure chose qui va. En tout cas, sur le papier, parce que
oui.
L'acheteur, je sais pas trop, hein. Il est passé par Arsenal, et Arsenal, c'était pas forcément ça. Bon, il était pas actionnaire majoritaire. Bref. Parce que là, c'est un Canadien qui rachète le club. On aura déjà plus de têtes pour diriger le club. Je pense que déjà, ça a stabilisé les choses. Ça peut être bien pour stabiliser, reconstruire un peu l'équipe. Surtout qu'il y a moyen avec la ferveur qu'il y a dans le Forez. Ouais, du coup, le retour des derbies.
C'est vrai.
Ça va être... Enfin, on aura les vrais derbies.
Et hein. Le retour de Diony à Geoffroy Guichard, ça veut dire, après ce qu'il a pu dire...
Ouais, ça peut être sympa, ça va être marrant.
Ça peut être sympa, ouais.
Dans tous les cas, de toute façon, c'est que ça... Avec ce qu'il y a eu encore cette année avec les supporters, je sais pas trop comment ça va être géré, ce déplacement-là. Mais en tout cas, le vrai derby, ouais, revient en Ligue 1.
Exactement.
Et derrière, non, c'est le match en soi pour la montée. Bah, scénario un peu foufou parce que match aller 2-1 pour Saint-Etienne.
C'est ça.
Qui va pour confirmer au match retour, mais qui se fait mener 2-1 avec un but qui est refusé pour une égalisation. Metz qui joue à 10 contre 11, assez tôt en plus. Et puis, y a cette prolongation et ce but qui délivre.
Le peuple
vert.
Très bien. Voilà pour Saint-Étienne. On va parler maintenant des JO avec cette liste très attendue de Thierry Henry. On a appris donc la convocation de ces 25 noms, et oui, pas 26. Je vais le faire très très rapidement. Dans les buts, Chevalier reste, Nkambadio, Risser, en défense, Sildilia, Diakité, Loukeba, Estève, Yoro, Truffer, Loco, au milieu de terrain, Zaïre Emery, Thuram, Koné, Akliouche, Millot, Chotard, Doué et Hugo Chouokou, et en attaque, Barcola, Lacazette, Mateta, Tel, Olise et Kalim Wendo. À noter que, il n'y a que deux, joueurs de plus de 23 ans, au lieu de 3 qui sont possibles, et puis surtout c'est quasiment officiel, mais 5 joueurs de cette liste ne feront pas partie donc de la liste, justement avec les Lillois Diakité, Yoro et Chevalier, et notamment les Parisiens Zaïre Emery et Barcola qui plus est disputent l'Euro à partir du 14 juin prochain. Rapidement, c'est un petit peu, justement, est-ce que ça va pas être une liste un peu déceptive à l'arrivée, avec beaucoup de forfaits de la part des clubs et le travail qui a peut-être pas été bien assez réalisé en amont de la part de la fédération pour convaincre. On sait que Macron est sur le dossier Mbappé, mais bon, pour l'instant, ça donne rien.
Oui, mais c'est récurrent. On l'a vu déjà au dernier JO. Ça avait posé
les. Mais là, les JO sont en France, on va dire.
Oui, mais tant qu'en France, on fera pas comme en Espagne, dire c'est l'équipe de France, que ce soit A, B ou U ou etc. Enfin, qui doit passer en premier. Ben, on aura toujours ce problème-là, des clubs qui voient plus leur côté eux pour eux. Bon, on va faire des petites tournées à droite à gauche, on va faire des matchs d'exhibition pour préparer notre saison. On va ramasser de l'argent et on s'en fiche du foot au JO. Ça crache en fait sur les JO, c'est tout ça parce que c'est pas considéré comme une compétition officielle
de la FIFA,
De la FIFA ou de l'UEFA. Voilà. Tant que les JO soient, il va falloir qu'ils trouvent un accord. Parce que bon, en France, ça fait 2 ans où on a ce souci-là, qu'on en parle pas mal. Il y a d'autres pays, je pense aussi, ça doit être un peu compliqué aussi pour trouver des joueurs. Mais tant que soit au niveau des JO on a peine reconnaissance, ou soit il va falloir c'est triste, mais ça marche bien en plus avec les femmes, donc ce serait un peu dommage. On se pose moins de questions pour les sélections féminines.
Bah parce qu'il y a pas de.
Il y a moins de clubs, mais bon, tu vois. Enfin.
Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a pas, de limite.
Et puis il y a pas de compétition à ce moment-là. Le truc, c'est que. Les Lillois, ils veulent pas se séparer de leurs joueurs parce qu'ils jouent en fait pendant ce tournoi olympique. Parce qu'en fait, il faut quand même dire aux auditeurs, c'est que ce tournoi olympique, il se finit avant que le championnat commence. Donc, il y a des clubs, ils seront pas handicapés. Alors, certes, ils n'auront pas leurs joueurs pendant la préparation, c'est pas optimal, certes. Mais je sais pas. D'un côté, comme tu le dis, on est en France. Les Jeux Olympiques sont en France. Ça fait quand même 7 ans qu'on est au courant que les Jeux Olympiques vont avoir lieu en France et que notre sélection, enfin notre équipe, va être qualifiée automatiquement en tant que pays organisateur. Ah oui. Donc on le sait. Donc à aucun moment il y a eu une préparation de la Fédération française de football. Mais ça montre aussi l'état du foot français en ce moment, qu'il y a plein de problèmes à gérer. On le disait hors antenne tout à l'heure. Mais il y a zéro organisation. Et je pense qu'à un moment donné, ils ont fait un pari en se disant on va nommer Thierry Henry à la tête de l'équipe de France, de l'équipe de France Espoir, donc qui aura les Jeux à ce moment-là. Et peut-être qu'avec son aura, il va réussir à convaincre des clubs ou quoi que ce soit. Au final, ça ne marche pas. C'est dommage et c'est malheureux. En fait, on va aller avec une équipe qui sera handicapée malheureusement, de leurs meilleurs joueurs parce que les clubs ne veulent pas les libérer. Ce que je peux entendre. Mais il faut aussi rappeler aux clubs que pendant une période trouble, à un moment donné, l'État et la France les a un peu sauvés avec des prêts ou pendant l'affaire de droit télé qui est encore en cours, malheureusement, en plus en ce moment. Mais je pense que, en fait, c'est dommage de cracher, en fait, sur la compétition, qui est une compétition qui est importante et qui peut leur servir en plus, avec des joueurs, s'ils font une bonne compétition, qui vont peut-être pouvoir augmenter leur valeur au moment de la revente. Donc, je trouve ça dommage. Après, c'est une liste qui n'est pas fermée, il l'a dit Thierry Henry, je pense qu'il y a des noms qui sont même pas dedans et qui pourront l'être parce que les clubs vont peut-être se réveiller à un moment
évidemment.
Donné.
Évidemment. Ah, ça, c'est sûr qu'on devrait avoir des évolutions. Et notamment sur le troisième plus de 23 qui devrait être, rajouter vraisemblablement.
Puis avoir, dommage avoir supprimer ça. Le parcours des Français en euro.
Exactement. Oui,
hélas, pour X ou Y raison, on passait pas le premier tour, la compétition, ça libérerait du temps pour ramener peut-être certains joueurs.
Moi personnellement,
parce que je
trouve ça assez logique entre grands guillemets de pas avoir de doublons sur les joueurs de l'euro et des JO, parce que en fait, t'as un mec de vacances. Donc ça, c'est plutôt logique, surtout pour deux jeunes joueurs qui, en plus, jouent au PSG, la Ligue des Champions, parce qu'on n'en a pas parlé, mais je voulais en toucher deux mots, mais là, le modèle de la Ligue des Champions va changer l'année prochaine. Pour les joueurs du PSG, je pourrais comprendre, et ça, c'est plus à Thierry Henry de voir ça directement avec Didier Deschamps plutôt
Mais le problème,
c'est que je suis même pas sûr qu'il Barcola, il connaît plus Thierry Henry que Didier Deschamps. Oui, c'est dommage, tu vois. Oui, Zaïre-Emery aussi.
Mais après, le problème, c'est que Deschamps avait la priorité, dans tous les cas.
Ah, c'est ça.
Donc, rien que déjà là-dessus, bon, je pense que la Fédé française a un peu merdé. Ils auraient dû discuter ensemble sur les possibilités de peut-être prendre tel ou tel joueur en fonction de l'état en fin de saison. Et on avait le temps d'annoncer, je pense, la liste aussi au niveau de l'équipe pour. Bah, quoique là, on arrive sur le délai pour l'équipe de France pour l'Euro. Mais en tout cas, on pouvait faire une sorte de basculement entre les deux équipes.
Ouais. Et pour Zaïre Emery, le pire, c'est que Thierry Henry, au moment où il arrive en équipe de France Espoir, Zaïre Emery est son capitaine. Ouais. Il le met capitaine de l'équipe. Donc, en fait, il se base sur lui pour pouvoir préparer. Ça, c'est pour préparer l'Euro Espoir à venir et aussi les Jeux Olympiques. Et au final, Didier Deschamps, comme tu le dis, a la priorité. Et ça, je trouve ça dommage, en fait. C'est un joueur qui a 17 ans. Enfin, il a 17 ans, 18 bientôt.
C'est parfait pour rentrer dans la...
À quel moment tu le mets directement maintenant alors qu'il a fait 3 mois, 4 mois énormes avec le Paris Saint-Germain, d'accord? Mais quand tu vois la fin de saison qu'il fait, enfin, du coup, c'était largement compatible Thierry Henry, comme tu le dis.
Ouais, mais on va te dire oui, mais c'est pour qu'il s'acclimate. Enfin, qu'il s'acclimate.
Ça, c'est Deschamps.
C'est Deschamps. Oui, mais c'est là, c'est Mathéo, la réalité. Ils prennent des jeunes joueurs qui vont rester, ça se trouve, toute la compétition sous le banc de touche, alors qu'ils pourraient très bien être.
Mathéo, qu'est-ce que t'en penses?
Bah, le problème, c'est que l'équipe de France Espoir, c'est un petit peu vu comme l'antichambre de l'équipe de France, à juste titre, sauf qu'on vient de le voir, c'est un peu compliqué. Après, ce qui est vachement intéressant avec l'équipe de France Espoir, toujours, c'est cette volonté de faire découvrir des noms au grand public qui font rayonner la France à l'international, mais qu'on ne connaît pas forcément. Moi, je pense directement dans cette liste à Enzo Millot, qui est un super milieu de terrain de Stuttgart. Ce qu'on prend pas à l'Euro, moi, je trouve ça dommage, mais c'est compréhensible quand même, mais ça reste hyper intéressant. Moi, cette liste, elle me hype grandement pour les JO. On peut parler de Mateta aussi. Mateta qui a mis un triplé sur la dernière journée face à Aston Villa. Aston Villa, quatrième de PL, donc c'est quand même pas n'importe quoi. Honnêtement, moi, j'ai hâte de voir cette équipe de France aux JO. Je pense que je vais vraiment prendre du plaisir à la suivre, même des Michael Olise, tout ça. Et puis, cette liste, elle est pas du tout définitive. Hein. On l'a entendu pas mal dans les médias. Ce côté je vais vous appeler et puis je vous appelle pas à la fin, qu'a fait Thierry Henry notamment avec Ryan Cherki, c'est intéressant, ça va les préparer pour une vraie guerre entre guillemets, mais je pense que cette équipe de France peut aller au bout avec cet effectif qui est vraiment très bien fourni.
Rapidement, Clément, est-ce que toi, Montreuil va te libérer pour les JO?
J'espère. Pour l'instant, j'ai pas demandé parce que j'ai pas été contacté.
Ah mince.
Je crois qu'on vient de recevoir un mail comme quoi c'est mort.
Je prônerai Génération Sport, alors
je vous enverrai des accréditations. Ouais.
Voilà pour ce que vous pouvez dire sur les Jeux Olympiques et donc cette crypte de Thierry Henry qui est amenée à évoluer. Ouais,
hormis la casette où voilà, ça va récompenser sa saison. Quoi.
C'est ça.
Si
Lyon va le libérer. Ils étaient surpris.
On parle peut-être d'un départ de la casette de Lyon, donc.
Donc on verra. Effectivement, ce sera peut-être plus un joueur de Lyon au moment des Jeux Olympiques. Très très rapidement, je vais vous parler de tennis avec Roland Garros. Les Français qui, on le disait, ne figurent plus dans les tableaux simples après les éliminations en huitième de finale de Corentin Moutet et de Varvara Gracheva. Du côté des favoris, tout le monde est au rendez-vous. Novak Djokovic, qui est diminué par un genou fragile, était sorti de deux tours assez compliqués, fini en 5-7 contre Musetti et Cerundolo. Et finalement, le Sèbre a déclaré forfait aujourd'hui puisqu'il se plaignait notamment de la qualité du terrain, de la terre battue tout simplement, à Porte d'Auteuil. Il va donc laisser le Norvégien Gasper Rudd rallier donc le dernier carré, lui qui a été double finaliste à Roland. De son côté, Yannick Sinner, tombeur précédemment de Gasquet ou encore de Moutet, s'est qualifié pour les demi-finales après son succès aujourd'hui contre Dimitrov en 3-7. Il affrontera Carlos Alcaraz ou Stefanos Tsitsipas au prochain tour.
Match en cours,
la Night Session a débuté. Et du côté des femmes, après avoir galéré à sortir Naomi Osaka, la polonaise Iga Swiatek a enchaîné avec facilité les tours suivants. Sur ses deux derniers matchs, la tenante du titre de Roland-Garros n'a concédé que 2 jeux cet après-midi contre Vondroušová et elle jouera donc la tête de série numéro 3 Coco Gauff au tour suivant. On va enchaîner, on n'aura peut-être pas le temps trop de parler de Roland-Garros, on en parlera peut-être une fois qu'on aura le nom des vainqueurs la semaine prochaine. Faustin, tu vas nous parler de basket, évidemment, avec l'officialisation des finales NBA et puis cette finale de Betclic Elite aussi qui nous tient en haleine.
Ouais, parce qu'elle a démarré aujourd'hui, c'était à 18h30, la finale de Betclic Elite qui oppose Paris Basket qui accède pour la première fois à la finale contre Monaco qui est le champion en titre. Dans cette finale, Monaco est clairement favori en ayant remporté les deux confrontations en championnat, mais en ayant perdu une fois en demi-finale de Leaders Cup que Paris Basket avait ensuite remporté. En plus, Monaco a bien plus d'expérience que Paris dans des matchs à enjeu. Et Paris sort, eux, d'une série en 5 matchs contre l'ASVEL qui leur a pris beaucoup d'énergie. Le premier match est donc terminé il n'y a pas si longtemps. Et c'est Monaco qui l'a remporté sur le score de 90 à 80. C'était un peu tendu d'ailleurs entre les joueurs en fin de match. Mais globalement, ce qu'on a vu, c'était une masterclass de Mike James qui a tout fait, des circuit shots, un buzzer du milieu de terrain à la mi-temps. Il a clairement leadé le match.
Et voilà, pour basket.
Ouais, je vais ensuite aller sur l'NBA.
Bah vas-y, c'est pour ça, vas-y.
Parce que là aussi, place à la finale, c'est sans surprise, c'est bien Dallas qui a réussi à se qualifier en finale en battant les Wolves, en ne perdant qu'un seul match. C'est clairement inattendu de les voir ici, mais au vu de ce qu'ils proposent comme jeu depuis le début, et surtout lors de cette dernière série, c'est clairement pas immérité. Face à eux, on retrouve les favoris de ces playoffs, les Boston Celtics. Ils ont atteint la finale sans trop de soucis, mais en jouant à chaque fois une équipe assez diminuée, que ce soit le Heat sans Jimmy Butler, puis Cleveland sans Donovan Mitchell, et enfin les Pacers sans Tyrese Haliburton. J'ai donc peur qu'ils ne soient pas assez prêts à affronter une équipe en pleine forme comme celle de Dallas. Après, il ne faut pas oublier que les Celtics sont également séparés de leur pivot letton Kristaps Porzingis, qui s'est blessé depuis le 29 avril et qui, d'après les dernières informations, pourrait faire son retour pour le match 1 de la finale. Donc, si je devais dire un prono de cette finale, je dirais 4-2 pour les Celtics quand même.
Voilà. Très bien. Mais le prono est annoncé. J'espère que tu seras aussi bon qu'en Ligue des Champions. On va enchaîner maintenant avec le rugby avant de vous proposer ma petite chronique sur Karabatic. L'équipe de France de rugby à 7 a remporté les World Series à Madrid ce dimanche en s'imposant en finale contre l'Argentine 19-5. Une semaine après son titre de champion d'Europe avec Toulouse, Antoine Dupont remporte ainsi son premier titre en rugby à 7 et c'est évidemment de très bon augure à moins de 2 mois des Jeux. À noter que les féminines ont quant à elles perdu en finale contre l'Australie 26-7, un résultat également encourageant. On reparlera peut-être de top 14 la semaine prochaine puisque c'est bientôt la fin de la phase régulière. Je vais donc vous parler des adieux, de l'hommage reçu par Nicolas Karabatic vendredi soir à l'Accor Hotel Arena de Paris-Bercy. Le plus grand handballeur de tous les temps faisait ses adieux au handball de club. Il disait adieu aux supporters du Paris Saint-Germain, club dans lequel il a évolué pendant 9 saisons. Mais il disait surtout adieu à tous les suiveurs de la petite balle en ce 31 mai 2024. Un avant-goût de son dernier match sur un terrain de hand prévu soit à Paris, soit à Lille pendant les Olympiques. Nicolas Karabatic, ne réapparaîtra pas avec un maillot d'un club, mais espère décrocher une dernière médaille au stade Pierre-Mauroy le 11 août prochain. Pour revenir à la soirée, tout était réuni pour de merveilleux adieux. Le CUP, collectif d'ultra parisien, avait fait le déplacement à Bercy pour dire au revoir à la légende du PSG avec un magnifique tifo. Une présence pas inhabituelle pour les gros matchs du PSG en balle et qui amenait une vraie ambiance chaleureuse, moins courante pour les matchs de handball. Du côté du sportif, la rencontre de la dernière journée de l'équipe Molly Star League contre Aix-en-Provence n'avait rien du match amical. En effet, le titre de champion de France pouvait encore échapper au club de la capitale, le HBC Nantes étant toujours en embuscade. Grâce notamment à Camille Sibjak, Luke Steins ou encore Elohim Prandi, la partie a été bien gérée et les joueurs de Raoul Gonzalez s'imposèrent sans trembler 39 à 36. En ce qui concerne le numéro 44, un seul but ne sera à mettre à son actif. Et surtout, une fin ironiquement ratée dans les dernières secondes. Karabatic s'engouffre dans la défense aixoise, rate son tir, mais obtient le pénalty. Le public pousse alors pour voir le multiple champion du monde inscrire cet ultime but. Face au gardien d'Aix, l'arrière parisien va malheureusement tirer dans la tête de son vis-à-vis et ne récoltera pas de carton rouge qui est généralement infligé dans ces cas-là. Karabatic en rigolera lui-même au moment de son discours après les célébrations en disant « il était temps que j'arrête ». Dans ce discours, le natif de Serbie rendra notamment hommage à tous ses coéquipiers, à ses coachs, mais aussi à son président Nasser Al-Khelaifi. Il se félicitera aussi de l'engouement créé autour de son sport tout au long de son parcours. Il faut dire qu'au début de sa carrière en 2001, il imaginait mal la terminer à Bercy sur la plus grosse affluence pour un match de première division de handball avec près de 15 000 personnes présentes. C'est aussi l'héritage qu'il laissera à son sport. Combien de carrières a-t-il engendré? Combien de sportifs a-t-il inspiré? Combien de téléspectateurs a-t-il mis devant la télé? Si ce sport est passé du préau à Bercy, comme il le dit lui-même, c'est avant tout grâce à lui et sa bande de copains d'experts qu'on n'oubliera pas de citer aussi. Le titre de meilleur joueur de l'histoire peut paraître subjectif, mais c'est un terme qui revient très souvent dans le milieu du handball, notamment lors de la vidéo d'adieu de tous ceux qui l'ont côtoyé pendant sa carrière diffusée vendredi soir. Et puis enfin, comment se définir autrement lorsqu'on a gagné 4 championnats du monde, 4 championnats d'Europe, 4 médailles olympiques et dont 3 en or, 3 Ligues des champions, 22 championnats de France, d'Espagne et d'Allemagne, et à 3 reprises, on a reçu le titre de meilleur joueur du monde. Comment se définir autrement? Maintenant, la boucle peut être bouclée à l'été prochain avec un 4e titre olympique qui serait alors évidemment historique pour Nicolas Karabatic. Voilà pour les adieux dont j'ai eu la chance d'assister donc à l'Accor Hotel Arena. Et c'était assez intéressant de voir ça. L'émission va bientôt toucher à sa fin. On va terminer par une petite info au cyclisme qui va aussi concerner les JO. C'est Julien Alaphilippe qui devrait notamment se concentrer sur justement les Jeux Olympiques et faire un pass sur le Tour de France. Florian, tu en as parlé la semaine dernière de Alaphilippe. Comment tu vois cette décision de Julien Alaphilippe?
Ça paraît logique. De faire l'impasse et de se préparer pour cette compétition qui est son unique objectif, on va dire, maintenant, après avoir fait le Tour d'Italie. C'est ce qui lui manque à son palmarès, donc je pense que avec sa victoire sur le Tour d'Italie et ses performances sur le Tour d'Italie, il s'est un peu rabiboché avec son directeur sportif. Et maintenant, entre guillemets, on lui laisse le champ libre pour les Jeux. Maintenant, on va voir quelle équipe il aura autour de lui. Le fait de se reposer, ça va être très très bien aussi pour lui de pas faire le Tour de France, de pas faire l'équipier pour Remco Evenepoel. Donc c'est une très bonne chose.
Très bien. À noter que la dernière médaille française en cyclisme sur route, je sais pas si vous savez à quand ça remonte.
Homme ou femme?
Homme, justement.
Homme. Ouais. Parce que femme, il y avait Jeanne Longo.
Oui, évidemment. Et sur piste, il n'y a pas si longtemps que ça avec Grégory Baugé, mais sur route, chez les hommes, ça remonte à 56. Melbourne 56, ça remonte à évidemment très.
Et
très
qui était le?
J'ai plus le nom en tête.
Ça peut être lui.
Non, je crois que c'est pas lui, mais j'ai plus le nom en tête. L'émission va toucher à sa fin. On va mettre d'ores et déjà le générique. On va vous quitter, chers auditeurs. On va vous donner rendez-vous donc la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va officiellement annoncer les nommés pour les générations d'or 2023-2024 et le sondage va être mis en ligne quelques heures après donc cette annonce et puis ce sera sûrement 2 semaines plus tard qu'on fera la cérémonie des générations d'or. On va vous laisser avec la suite des programmes sur Radio G et puis on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Génération Sport.
Thank you.